Radio Info.
Radio contre l'intox.
Non, on n'est pas des fakes.
Pas des fakes.
L'émission que vous allez écouter a été réalisée par un groupe de jeunes du lycée professionnel du Mirail à Toulouse lors d'un atelier mené dans le cadre de l'appel à projet de la DRAC en éducation aux médias, l'EMI, avec la Ligue de l'enseignement et l'association Médias communs Occitanie. Pendant un mois, un groupe de jeunes ont participé à des ateliers de réflexion autour de la place des médias dans la société et ont pu interviewer autour d'un plateau radio installé dans leur salle de classe Vanessa Vertu, une journaliste, et Philippe Rullier, animateur à la Ligue de l'enseignement. On les écoute.
Bonjour, bienvenue dans la classe de seconde MRC2 de Rive-Gauche à Toulouse. Nous réalisons une émission radio sur comment s'informer à l'heure du numérique. Nous avons invité une journaliste, Madame Vanessa Vertu, qui a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Vanessa Vertus, vous pouvez m'appeler Vanessa, ça ira plus vite. Je suis journaliste depuis 6 ans. Comment je peux me présenter ? Ben, je suis journaliste pigiste, alors il y a plusieurs statuts quand on est journaliste. Donc, quand on est journaliste pigiste, ça veut dire qu'on travaille pour plusieurs rédactions. Un journaliste, par exemple, il peut, travailler pour une seule rédaction, par exemple La Dépêche, il est journaliste à La Dépêche, il travaille que pour La Dépêche. Tous ses articles viennent de là. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis journaliste pigiste, donc je travaille pour plusieurs rédactions. Je travaille notamment pour La Tribune. La Tribune à Toulouse, donc qui est un journal économique. Donc, je fais des sujets sur l'économie. Je travaille aussi pour le groupe La Dépêche, mais pas en actu. Je travaille pour un magazine qu'on appelle un peu... C'est du lifestyle. Comment je pourrais expliquer ça ? C'est un magazine qui parle d'artisanat, de décoration, de choses comme ça. Je travaille aussi également pour une revue sur Internet qui s'appelle Reporter, qui est la revue de l'écologie en France. Et aussi pour une autre revue juridique qui s'appelle Dossier familial. Et j'ai commencé aussi, mais là, je n'ai pas encore écrit pour eux, je suis en train de préparer ma première enquête pour un média qui s'appelle Médiacité. Et Médiacité, en fait, ils font de l'investigation. Je ne sais pas si vous connaissez Mediapart. C'est un peu comme Mediapart. Donc, ils font de l'investigation. Ils fouillent des sujets. Ils font des grosses enquêtes. Ce n'est pas des petits articles. Et eux, c'est plutôt politique. Donc, voilà. Si je devais me présenter, je dirais que je suis journaliste pigiste et que je travaille sur, on va dire, trois gros domaines. C'est l'économie, l'environnement et puis la politique. Voilà.
Depuis quand faites-vous ce métier ?
Alors voilà, donc du coup, moi je suis journaliste depuis 6 ans et je travaille à Toulouse depuis 3 ans, parce qu'à la base, moi je viens de région parisienne, donc j'ai fait mes études à Paris, j'ai commencé à bosser à Paris et puis j'habite à Toulouse depuis fin 2016. Donc ça fait 6 ans que je fais ce métier et 3 ans à Toulouse.
Et pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
Ça c'est une bonne question. Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier ? Je pense déjà la curiosité que j'avais. Pour la petite anecdote, je devais être au collège et il y avait une guerre donc, en Yougoslavie, la guerre dans les Balkans. Mes parents regardaient le journal. Bon, à l'époque, je sais que maintenant, les gens ne regardent plus trop le journal, mais à l'époque, à 20h, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore tout ça. Donc, il y avait les parents qui regardaient le journal, les enfants à côté qui ne devaient pas trop parler fort. Et le journaliste donc, parlait de cette guerre et j'ai trouvé ça assez fascinant. Je me suis dit, mais c'est fou quand même, il est en train de parler d'un sujet, il n'est pas prof. Il n'est pas yougoslave, mais il sait plein de choses sur ce sujet. Et je me suis dit, mais ça doit être sympa de parler d'un sujet et puis d'exprimer un petit peu tout ce qu'on a appris sur le sujet aux gens et de faire découvrir aux gens tout ce qu'on a appris sur le sujet. Je ne sais pas si je suis trop claire, mais voilà, en gros, c'est ça. C'était la curiosité que j'avais. Et puis après, les raisons de vouloir devenir journaliste, elles ont évolué parce qu'il y a... L'idée que tu t'en fais du métier quand t'es plus jeune, parce que moi j'avais 13-14 ans, puis après j'ai voulu faire plein de choses. Hein. J'ai voulu être prof d'histoire géo, j'ai fait des études d'histoire d'ailleurs à la fac, j'ai voulu être avocate, j'ai voulu faire plein de choses. Et puis il y a aussi après la réalité du métier et ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est le fait que tu couvres plein de sujets, donc tu rencontres des gens différents à chaque fois. Et je crois que c'est un petit peu ça qui me plaisait.
Comment êtes-vous payé ? À l'article, au mois ? Ou bien au scoop ?
Ça dépend des rédactions pour lesquelles je travaille. Il y a des rédactions avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Donc pour ces rédactions-là, je suis payée au forfait. J'ai un nombre d'articles que je dois écrire par mois. Et puis il y a des rédactions où on appelle ça un peu du one-shot. Par exemple, Reporter, je ne travaille pas souvent avec eux. Donc là, pour le coup, je suis payée par article. Parce que Reporter, ils font beaucoup d'enquêtes, en fait. Ce n'est pas des articles qui sont courts. Je ne sais pas ce que vous lisez en presse, mais c'est des articles qui sont longs, qui nécessitent d'interroger les gens plusieurs fois, etc. Donc Reporter, la dernière fois que j'ai travaillé pour eux, c'était le dernier article que j'ai dû écrire, c'était en juin. J'ai ramené d'ailleurs quelques articles et ils sont assez longs, donc ça dépend. Il y a des médias pour qui je suis payée au forfait et puis d'autres à l'article.
Et partez-vous régulièrement en déplacement ?
Non, je me déplace dans la région, mais je travaille pas à l'étranger. C'est vrai qu'on a beaucoup d'extérieur le mythe du journaliste un peu Tintin qui est avec son petit carnet et qui va à travers le monde. C'est une réalité qui existe, mais c'est une réalité qui est compliquée. Et les journalistes qui travaillent comme ça à l'étranger, c'est pas facile, hein, c'est pas évident, parce que voilà, moi je suis pigiste par exemple, mais quand vous regardez la télé ou que vous lisez le journal ou que vous écoutez une émission de radio et que vous avez un journaliste ou une journaliste qui est dans un pays étranger, parfois c'est pas la rédaction pour laquelle elle travaille. J'ai une copine par exemple, elle est journaliste radio, elle vit en Afghanistan, donc elle travaille là-bas. Elle fait des papiers pour France Inter, mais elle n'est pas salariée de France Inter, quoi. Elle est pigiste. Donc c'est une réalité qui est un peu compliquée, le journaliste à l'étranger. Et de plus en plus, ça je tenais vraiment à le dire, c'est que le journaliste a de moins en moins de temps. Il doit aller de plus en plus vite, donc il n'a pas tellement le temps de bouger. Et c'est quelque chose dans notre métier qui manque, parce que si on ne rencontre pas les gens, c'est compliqué, quoi.
Parce que pour moi, journaliste, c'est... Quand j'étais petit, pour moi, c'était une personne qui voyageait beaucoup, qui allait dans
ça des... peut. Ça peut. Après, ça dépend ce que tu fais. Tu vois, moi, par exemple, à la Tribune, je fais des articles économiques, dont je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Alors, en ce moment, la mode, c'est les startups. Je rencontre beaucoup de mecs qui font des startups, de chefs d'entreprise. Mais voilà, quand je dois interviewer, je sais pas, moi, un chef d'entreprise, oui, je me déplace, on prend rendez-vous quelque part à Toulouse, mais je reste à Toulouse, en gros, tu vois. C'est quand même hyper rare, et quand je bouge dans la région, quoi.
Mais c'est quoi un pigiste ?
Eh bien, un pigiste, c'est un journaliste qui travaille pour plusieurs médias, qui n'est pas attaché à une rédaction, tu vois, comme moi, où je bosse pour 3-4 médias, quoi. C'est ça, un pigiste. Après, tu as des journalistes, voilà, j'ai des confrères qui, par exemple, je travaille un peu avec La Dépêche. Ben, j'ai une consoeur, elle travaille que avec La Dépêche. Le matin, elle va à La Dépêche, elle bosse toute la journée là-bas et puis elle rentre chez elle. Le journaliste pigiste, il travaille pour plusieurs médias, c'est ça.
Comment travaillez-vous en équipe de rédaction ?
Alors, moi, je fais mes sujets seule, comme je suis pigiste, et il y a deux façons de faire. Soit j'ai des commandes. Là, par exemple, ma dernière commande pour La Tribune, c'est un sujet qui m'a été commandé le vendredi et que je dois rendre lundi prochain. C'est sur une entreprise chinoise installée en Aveyron, qui subit un plan social et qui va peut-être devoir fermer. Et l'actualité de pourquoi on m'a commandé ce sujet, c'est parce qu'en gros, Carole Delga, donc la présidente de région, a dit qu'elle allait peut-être soutenir cette entreprise. Donc j'ai deux façons de travailler. Soit on me fait une commande. Donc du coup, là, pour le coup, va falloir que j'aille interroger donc, les salariés de l'entreprise, la direction, les syndicats aussi, ceux qui se battent pour garder l'entreprise ouverte. Il faudra aussi que j'interroge des élus, donc soit la présidente de région ou quelqu'un qui la représente. Et puis sinon, la deuxième façon que j'ai de travailler, c'est de proposer des sujets. Donc soit on me les commande, en général on commande les sujets, mais il peut m'arriver aussi de proposer des sujets, de proposer des enquêtes. Et là voilà, donc tu appelles une rédaction avec laquelle tu as l'habitude de travailler ou pas, et tu leur dis voilà, moi j'ai ce sujet qui est super, qui est intéressant, est-ce que ça vous intéresse de le traiter ? En gros c'est ça, soit on te commande un sujet, soit tu le proposes.
Alors, peut-être pour compléter, donc moi j'étais journaliste à la Dépêche du Midi en Ariège, à l'agence de Foix. Donc c'est ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. J'étais en remplacement d'une journaliste qui était en congé maternité, donc j'ai fait 6 mois à peu près à la Dépêche en Ariège. Du coup, c'était différent, donc, puisque j'étais rattaché à une rédaction. Donc dans un journal quotidien comme la Dépêche, tu écris tous les jours, tu as un agenda. Le matin, tu arrives, tu appelles, pour la rubrique des faits divers, par exemple, tu appelles la gendarmerie, les pompiers, voir les accidents, tout ce qui s'est passé. Tu fais tes petites brèves, le qui, quand, quoi, où, hein, tu rédiges tes petites brèves. À 9h, 9h30, tu as ce qu'on appelle la conférence de rédaction avec l'ensemble des journalistes de l'agence locale. Et tu, en fonction de l'actualité politique, sociale, économique, eh bien on se répartit les sujets. Par contre, c'est le rédacteur en chef qui tranche. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai dû proposer des sujets, si tu veux. Par exemple, moi, j'étais plutôt sur des projets sociaux, etc. Et parfois, on me disait, ben non, on va plutôt... on n'acceptait pas toujours mes propositions. Je voulais faire une enquête sur la prison de Foix, les conditions d'incarcération à la prison de Foix. C'était au mois d'août. Mon rédac-chef m'a dit, ben non, on va plutôt faire un sujet autour des vacances. Donc, ramène-nous un sujet sur les vacances en Ariège. Voilà. Tu vois, donc il y a des fois où tu proposes tes sujets, mais des fois c'est le rédac-chef parce que lui se met à la place des lecteurs et des lectrices. Voilà. Et après, donc, tu vas faire ton sujet en fin de matinée, tu reviens en général en début d'après-midi, tu rédiges ton article et il faut qu'en gros qu'il soit sur le marbre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il soit prêt à la mise en page dans la maquette du journal en début d'après-midi. Donc on travaille parfois très vite dans la presse quotidienne régionale. Alors des fois on a un peu plus de temps quand il s'agit de faire des petites enquêtes. Voilà. Voilà. Moi j'avais enquêté sur la disparition d'un train, entre guillemets, là. Ils avaient supprimé un train de voyageurs en Ariège, c'est important le train pour se déplacer. Et ils avaient supprimé un train de voyageurs au profit d'un train de marchandises. Et ils n'en avaient pas informé les voyageurs. Donc j'ai fait une petite enquête pour savoir pourquoi, est-ce que c'était vrai, etc. J'ai appelé un petit peu la SNCF, j'ai appelé la région, j'ai eu le cabinet du président de la région, parce que c'est la région qui finance aussi, ça a fait un mini scandale à l'époque. Et là j'ai eu, exceptionnellement, j'ai eu 2-3 jours pour travailler mon article. Mais normalement on travaille très vite dans la presse quotidienne régionale. Puis, voilà, c'était pour répondre un peu aux différentes, à ta question sur voilà, la rédaction, est-ce qu'on est, voilà, le choix des sujets, etc.
Ce qui est peu, 2-3 jours, c'est pas non plus énorme. Je savais pas que tu avais bossé à la Dépêche, moi aussi. Hein. En Aveyron, moi j'ai bossé à Rodez et aussi dans le Tarn à Albi. On est tous passés par la Dépêche, en fait, ici.
C'est une bonne école, quand même.
En fait, quand vous rendez votre rédaction, elle peut être genre refusée.
Oui, elle peut être refusée. Elle peut être améliorée aussi. Alors, tu as plusieurs rôles, en fait, dans une rédaction. Donc, comme disait Philippe, tu as le rédacteur en chef, tu as souvent son adjoint, tu as les journalistes, et puis tu as quelqu'un qui est très important, mais dont le métier tend à disparaître de plus en plus, qui s'appelle le secrétaire de rédaction. Et j'ai une copine, quand elle était en école de journalisme, son prof, il disait, le secrétaire de rédaction dans une équipe de foot, c'est le numéro 10, quoi. Tout passe par... Enfin, en gros, son rôle est très important. Le secrétaire de rédaction, tu lui donnes ton article, il vérifie qu'il n'y ait pas de faute. Il vérifie que l'article correspond bien à ce qu'on lui a demandé de faire et il le met en page. Donc à ce moment-là, oui, il peut pas être refusé, mais en tout cas, il peut être amélioré, ton article. Et souvent, le secrétaire de rédaction, il choisit le titre à ta place. Donc ça veut dire que toi, tu vas proposer un titre et puis derrière, tu vas regarder ton journal, tu vas faire « merde, c'est pas mon titre », mais c'est normal, c'est que lui, il est là pour ça, quoi. Il est là, en gros, c'est comme si c'était un bijoutier. Toi, tu lui ramènes un diamant brut et puis lui, il est là pour le polir et en faire une belle bague, quoi.
Il faut savoir que le titre, c'est très important, comme les photos, puisqu'en fait, les titres et les photos, c'est ce qui est un journal, il est vu avant d'être lu, donc c'est ce qui va accrocher le lecteur ou l'électrice. On n'a pas toujours l'art du titre, nous, les journalistes. Des fois, le secrétaire de rédaction, qui est un journaliste, oui. ou la secrétaire de rédaction, sont des journalistes expérimentés, qui sont plutôt doués à l'écrit ou dans la formule, et qui te retravaillent un peu le titre, qui te raccourcissent parfois, si tu as été trop long, pour que ça rentre aussi dans la maquette, quoi.
C'est ça. Voilà. Parce que le format, il est super important, et ça, que tu travailles pour un journal papier ou pour un journal sur Internet numérique, il y a des formats, en fait. En journalisme, le format de base, c'est le feuillet. Donc, un feuillet, c'est 1500 signes. Donc, quand on te commande un article, on te dit, par exemple, à l'enquête dont je te parlais tout à l'heure, ma dernière enquête pour la Tribune qu'on m'a commandée, il doit être en six feuillets. Ouais, six feuillets ou trois ? Ouais, six feuillets. Il faut que je fasse cet article en 6000 signes. Donc, c'est le format, comme il disait Philippe, c'est hyper important parce que sur une maquette, tout dans un journal a une place, en fait. Les photos ont une place, on décide... Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans un journal. Même la place du sujet, le sujet qui sur la une du journal, il est choisi, il n'est pas choisi par hasard. Si tu lis un sujet qui est en page 2 et un autre sujet en page 4, il n'est pas mis en page 2 par hasard et le sujet que tu vas voir en page 4, il n'est pas mis en page 4 par hasard. Tout est hyper important et il n'y a pas de place, en fait, pour... l'improvisation. C'est-à-dire que si on te dit, voilà, ton article, il doit faire telle taille, il faut qu'il fasse telle taille. Et si ton article, il est trop long, on va te le couper, en fait. On va te dire, bon, écoute, là, c'est trop long, t'as mis telle information, on va s'en passer. C'est vraiment un gros travail de faire un journal, de faire de l'information. Il n'y a pas que le journaliste qui travaille là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui œuvrent à la bonne réalisation d'un support de presse, quoi.
Aujourd'hui, chez les jeunes, les journalistes, ils ont une réputation assez négative. Pourquoi pensez-vous que les jeunes ressentent ça vis-à-vis des journalistes ?
C'est vraiment une très belle question. Alors, en plus, je suis bavarde, donc là, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la défiance des jeunes vis-à-vis du journalisme. Et en plus, c'est une défiance qui... On en discutait tout à l'heure avec Philippe. Il n'y a pas que les jeunes qui ont une défiance des journalistes. Quand tu discutes aussi avec des gens autour de toi, des adultes, parfois, il y a cette défiance-là. Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a déjà une espèce de déconnexion qu'on reproche aux journalistes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les écoles de journalisme, ça commence très tôt, ça marche souvent en vase clos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les journalistes, ils connaissent pas le pays réel, en fait. Ils connaissent pas toutes les composantes de la France, que parfois, quand ils se rendent dans des endroits, ils s'y rendent juste quand ça va pas, quand il y a un problème, qu'ils ont une tendance parfois à cataloguer et à catégoriser des types de populations. On voit ça, par exemple, avec le mouvement social qui a quand même un peu plus d'un an, là, des Gilets jaunes, où il y a des Gilets jaunes qui reprochaient aux journalistes, qui disaient « Mais vous, vous connaissez pas les vrais Français, enfin, entre guillemets, les vrais Français, même si j'aime pas cette expression, mais en fait, vous connaissez pas le peuple parce que vous êtes dans votre petite... case, votre petite tour d'ivoire et vous connaissez pas les vrais problèmes des gens. Pareil pour les quartiers populaires, des grandes métropoles françaises, il y a des gens qui reprochent aux journalistes, qui disent mais vous quand vous parlez, je sais pas, de gens qui habitent en banlieue parisienne ou dans des quartiers populaires d'autres villes de France, c'est caricatural ce que vous faites en fait. Il y avait eu un reportage à la télé, un documentaire sur le quartier du Mirail il y a 3 ans. Et les gens, après, quand j'en discutais avec eux, ils disaient « Mais il les a trouvés où, en fait, les mecs de ce quartier ? Nous, on connaît pas ce type de personnes. » C'est-à-dire que la défiance, je crois qu'elle vient de là. C'est... On a l'impression que les journalistes, ils sont dans leur monde et qu'ils connaissent pas les réalités, les vraies réalités des gens et qu'ils caricaturent. En fait, voilà, le mot qui revient souvent, c'est qu'on a l'impression que les journalistes, ils font de la caricature.
Alors, heureusement, quand même, parce que moi, je vais défendre les journalistes, du coup.
Mais je vais les défendre aussi, hein. Je vais les défendre aussi.
Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Vanessa. Je vous avais aussi, moi, un petit peu parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez la dernière fois. C'est un peu comme ce qu'on reproche parfois à certains hommes politiques, de ne pas vivre avec la société, de ne pas se mettre à la portée des gens, dans leur diversité, en fait. Par contre, il y a aussi une forme de journalisme qui est née, je vous ai dit, après les émeutes, par rapport au quartier populaire. Après les émeutes de 2005, il y a un certain nombre de médias qui sont nés. Je pense à, je vous avais parlé du Bondi Blog, je vous parlais aussi, c'est important, de Presse et Cité, d'un certain nombre de médias qui sont nés justement de la rencontre d'habitants, de jeunes, d'associations de quartiers qui disaient effectivement il y a des problèmes dans nos quartiers, mais la façon dont vous les traitez, c'est toujours le même angle, c'est toujours la même façon de le traiter. Parce qu'il y a aussi plein de projets, plein d'acteurs qui font des choses extraordinaires et voilà, d'avoir un regard un petit peu moins caricatural sur les quartiers. Donc effectivement, cette critique elle est fondée, mais c'est qu'une forme de journaliste. Parce qu'il y a, il y a 34 ou 35 000 journalistes. La plupart font correctement leur boulot, mais il y a effectivement, dès que ça passe dans des grands médias, où c'est très élitiste, c'est souvent effectivement une info un peu simplifiée et un peu caricaturée.
Sur ça, je suis d'accord avec toi, mais je voulais préciser, c'est qu'effectivement, il y a des médias qui sont sortis, qui parlent des quartiers populaires. Il y en a un à Toulouse qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Je fais partie de l'équipe, mais là, à titre bénévole, je donne un coup de main qui s'appelle Chouf Tolosa et qui est en gros le média des quartiers populaires. Mais sur la question de caricature, là, vous allez dire que je défends un peu ma profession, mais on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, en fait. On parle des trains qui arrivent en retard, on parle des trains qui déraillent. Et le métier du journaliste, c'est de parler des choses qui vont pas bien. Il y avait un journaliste qui était très connu, une grande figure du journalisme français, qui s'appelait Albert Londres. Et Albert Londres, il disait « Moi, mon boulot, c'est de mettre la plume dans la plaie, en fait. » Et le métier d'un journaliste, c'est celui-ci. Après, sur la question des quartiers populaires, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'en viens. Voilà, j'ai grandi en région parisienne dans le 93 et je viens de ce milieu-là. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et effectivement, quand je discutais avec des gens autour de moi, ils me disaient « Mais voilà, toi, t'es journaliste, ok, mais regarde ce qu'ils font tes confrères quand ils parlent de nous, quand ils parlent d'Aulnay-sous-Bois, quand ils parlent de notre cité, ils racontent n'importe quoi et patati et patata. » C'est pas aussi tranché que ça. La réalité, il faut toujours se dire qu'une réalité, que n'importe quelle situation, c'est complexe en fait. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est toujours nuancé. Donc cette défiance, moi je la comprends. Et même en partie, je la partage. Parce que parfois, je lis des articles, je me dis, mais sont-ils sérieux ? Mais il faut savoir que c'est pas voilà, d'un côté les méchants journalistes qui caricaturent les citoyens. C'est plus compliqué que ça. Voilà.
Ce qui est important, c'est de souligner l'importance du travail de journaliste et de défendre la qualité. L'information, elle a une valeur. Elle a une valeur parce que, c'est-à-dire que sans journaliste, il ne peut pas y avoir de démocratie. Le journaliste, il s'engage normalement. Il y a ce qu'on appelle une charte déontologique sur laquelle peut-être Vanessa, tu pourras revenir. C'est-à-dire que le journaliste, il s'engage à dire la vérité, à vérifier ses sources. Hein, et il signe son article. Ça veut dire que il engage sa responsabilité. Ce n'est pas un anonyme qui se planque sur la toile ou sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. S'il se trompe, normalement, il a obligation de corriger ses erreurs. On ne trouverait pas ça de la part peut-être d'autres acteurs qui sont sur Internet et les réseaux sociaux. Donc c'est un métier difficile. La réalité, elle est complexe. C'est un métier de passion qui demande quand même de temps, beaucoup de temps pour vérifier certaines sources. Le temps, on en a de moins en moins parce qu'il y a une espèce de concurrence, d'immédiateté. Alors, on le voit avec Twitter, les réseaux sociaux, la réactivité des gens. Mais en fait, le journaliste, ça demande quand même du temps. Et moi, je vous renverrai aussi la responsabilité du lectorat. C'est-à-dire, si vous voulez une information de qualité, il faut accepter de prendre le temps de s'informer, de faire un petit effort, d'aller sur des sites d'information journalistique, voire de... Même si on n'a pas beaucoup de sous, il y a des abonnements. L'info, elle a une valeur. Une info qui serait que gratuite, ça veut dire que ça serait une info payée uniquement par la publicité. C'est un petit peu... voilà, ça a une valeur, l'information.
Et sur cette question, parce que c'est vraiment une question qui me passionne, et je voulais insister aussi sur autre chose par rapport à ça. Souvent, on dit oui, mais les journalistes, ils disent tous la même chose, etc. Et après, quand tu discutes avec la personne qui te dit ça, tu lui dis, mais toi, tu t'informes comment? Et elle te dit, ben, je prends le petit journal qu'on me distribue dans le métro. Oui, mais si tu veux une information de qualité, comme dit Philippe, déjà, ça se paye, parce que quand tu payes pas quelque chose... C'est toi, en fait, le produit. Donc, si tu n'as pas payé l'information, que tu prends un journal gratuit, moi, j'ai rien contre mes confrères qui bossent dans la presse gratuite. C'est tellement difficile de gagner sa vie quand on est journaliste que, voilà, si tu trouves du boulot là, tant mieux pour toi. Mais en gros, c'est la pub, en fait, qui paye ces médias-là. Donc, forcément, il y a des jeux qui se font, il y a des alliances qui se font. Et la presse, même si elle est en difficulté, elle est plurielle. Ça veut dire que les sources d'information, elles sont plurielles. Quand on est jeune, on n'a pas forcément beaucoup de sous, mais on a la chance de vivre dans un pays de culture avec un gros réseau de bibliothèques. Rien qu'à Toulouse, franchement, on est vraiment gâtés au niveau de ça. Il suffit d'aller à la bibliothèque et de lire la presse et de voir cette pluralité-là. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que je pense que c'est hyper important et que ça explique pourquoi aussi il y a de la défiance, ce qu'on reproche aussi aux journalistes, c'est de tous venir du même milieu social. Et en fait, en journalisme, oui, il y a une vérité, mais quand un journaliste il vous dit « oui, moi, de toute façon, mon information, elle est neutre », on ne peut pas être neutre. Moi, je ne crois pas à la neutralité dans le journalisme, en fait. Tu as toujours...
parler d'honnêteté.
Voilà, exactement. Vaut mieux parler d'honnêteté parce que quand tu parles d'un sujet, si demain, il se passe quelque chose, là, je ne sais pas, il y a une grosse manif au Mirail, comment tu t'appelles ?
Nora,
et bon, on va dire que t'es journaliste aussi, t'es une de mes consoeurs. On va toutes les deux au Mirail faire l'information. Tu crois que tu vas voir forcément les mêmes choses que moi ? Non, parce que t'as ta vie, t'as la ville où t'es née, t'as les choses qui t'entourent, t'as la manière dont t'as été éduquée, t'as ce que t'aimes, etc. Donc ça façonne en fait ton regard. Donc un journaliste, il a toujours son regard qui est façonné par plein de choses. Donc il n'est pas neutre, il est forcément subjectif, mais comme dit Philippe, il faut qu'il soit honnête. Et le problème qu'on reproche aux journalistes, c'est que comme il viendrait souvent des mêmes milieux sociaux, c'est-à-dire des milieux très aisés, souvent même très parisiens, la presse française, elle est très parisienne, du coup, ils ont une manière de penser et ils penseraient un peu tous pareil. Dernièrement, je vais vous donner un exemple. Il y a un journal de presse quotidienne régionale qui s'appelle Le Courrier Picard qui a titré par rapport à donc le virus là du coronavirus, alerte jaune. Ça a fait un scandale parce que c'est un titre qui est raciste. Et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Est-ce que si cette rédaction-là, il y avait un peu plus de gens qui venaient d'autres milieux sociaux ou d'autres origines ethniques, il y aurait forcément quelqu'un dans la rédac qui aurait dit, parce que pour titrer, le rédacteur en chef, il a validé le titre. Son adjoint, il a validé le titre. Le journaliste qui a écrit l'article, il a validé le titre. Il y a plein de gens qui ont validé. Mais s'il y avait un peu plus, on va dire, de parcours différents, de gens différents, est-ce qu'un titre comme ça, il serait passé ? Il serait jamais passé. Il est passé parce qu'en fait, ils sont tous dans leur... ça marche en vase clos. Mais il y a de l'espoir, puisqu'il y a des associations, aujourd'hui, qui essayent de faire le travail et qui essayent d'ouvrir la profession à d'autres profils. Il y a une très belle association qui s'appelle La Chance au Concours, et qui, son but, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent de milieux modestes, de tout horizon. Des gens qui, par exemple, une nana qui a grandi dans le fin fond de l'Ariège et qui se dit ben, « je pourrais jamais être journaliste parce que pour être journaliste, il faut être à Paris, il faut avoir de l'argent, il faut ceci, il faut cela ben, », de faire en sorte qu'on l'aide à préparer ses concours pour rentrer dans les écoles de journalisme et faire en sorte qu'il y ait ben, des gens qui viennent aussi d'autres endroits. Donc, voilà, ça c'est vraiment mon cheval de bataille pour le coup, parce que voilà, moi je n'étais pas destinée à faire du journalisme. Disons que je venais pas du milieu social qui aurait dû m'amener à faire les études que j'ai fait. Donc c'est hyper important qu'il y ait des gens aussi différents qui pensent aussi un peu différemment, quoi.
Il y a aussi l'association qui s'appelle La Télé Libre aussi, qui fait des...
Absolument,
qui forme aussi
de Jean-Paul Lepers.
Voilà, de Jean-Paul Lepers, qui est un journaliste aussi, mm-hmm. qui a travaillé pas mal sur Arte, mm-hmm. qui a créé une structure justement pour démocratiser le métier de journaliste, proposer des formations aux jeunes de tous les horizons, notamment en quartier populaire, en milieu rural, etc.
Mm-hmm. J'ai une copine qui l'a fait, ce truc, et qui aujourd'hui, maintenant, elle bosse à LCI. Ouais, c'est bien.
Pourquoi, justement, ils viennent tous de ce milieu ?
Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Je te donne juste mon interprétation à moi. Je ne dis pas que je détiens la vérité. C'est vraiment mon point de vue que je vais défendre là. Parce qu'il faut un certain capital culturel, que les concours des écoles de journalisme, ils sont durs. On met beaucoup l'accent, par exemple, sur une certaine forme de culture. Et c'est vrai que quand on vient d'un milieu, on va dire, aisé, que depuis qu'on est petit, on est habitué à aller au musée tous les samedis, au théâtre, qu'on grandit dans un environnement où il y a beaucoup de livres, tout simplement, bah, forcément, ces concours-là, tu les réussis plus facilement que quelqu'un qui n'a pas eu accès à tout ça. Et puis aussi, il y a une question qui est bassement matérielle, mais c'est la question financière. Ça veut dire que quand tu passes des concours, ça coûte de l'argent. Tout le monde ne peut pas... par exemple, avant de faire mon école de journalisme, j'ai fait une école de journalisme à Paris. J'ai fait la chance au concours, qui est donc cette association dont je parlais tout à l'heure, qui m'a payé tous les frais de mes concours, en fait. J'ai rien payé. Pendant 8 mois, j'ai fait une prépa qui était gratuite. La plupart des jeunes qui font des écoles de journalisme, ils passent par des prépas qui sont payantes, qui coûtent 8000 euros l'année. Alors, tu t'imagines bien que si tes parents, c'est des smicards, 8000 euros l'année, ils vont pas pouvoir les sortir, en fait. Donc, c'est aussi ça, c'est que les écoles, certaines sont payantes et sont chères. Pour préparer les concours, c'est compliqué. Et puis aussi, parce que, pourquoi ils viennent des mêmes milieux ? Parce que souvent, quand on vient d'un milieu modeste, on se dit, ça, c'est pas pour moi. Juste, je vois pas de gens qui me ressemblent. Et là, je parle même pas de la couleur de peau, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment là des origines sociales. C'est que si demain tu t'appelles Marie, que t'es blanche, mais que ton père il est agriculteur et que ta mère, je sais pas moi, elle est auxiliaire de vie, que t'habites au fin fond de l'Ariège, t'auras beau peut-être être blanche, mais en fait tu viens d'un milieu qui est tellement éloigné de la représentation que tu te fais des journalistes que tu vas te dire pourquoi je vais tenter ma chance. En fait, il y a personne qui me ressemble, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça qu'ils viennent des mêmes milieux, c'est que parfois tu te brides en te disant « c'est pas pour moi ». Voilà. Mais c'est mon point de vue, hein. Je dis vraiment que c'est mon point de vue, je dis pas que c'est le point de vue de tous mes confrères.
Dans les médias, le buzz est-il plus rentable que l'info ?
Il faut que je dise la vérité.
Un peu quand même, parce qu'on a l'impression que le buzz aujourd'hui, les journalistes y priment sur ça pour faire plus d'argent et plus de visibilité sur leur journal que de montrer une vraie information qui pourrait nous intéresser.
C'est délicat comme question. Moi, j'ai envie de répondre non, le buzz prime pas sur l'info, c'est l'info qui compte. Mais déjà, qu'est-ce que vous entendez par buzz ? Ce serait bien qu'on définisse déjà ça. Quand vous dites le buzz, qu'est-ce que vous entendez ?
C'est un article ou quelque chose qu'un journaliste va dire, que ce soit sur le papier, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et en l'écrivant, il va faire en sorte que l'article soit vu par tout le monde, qu'il devienne viral sur Internet, que les gens parlent de bouche à oreille.
Qu'il fasse en sorte que ça intéresse tout le monde.
Voilà.
Je dirais pas moi que le buzz prime sur l'information, mais par contre, ce qui effectivement prime un peu, c'est qu'il y a un côté.
Racoleur.
Je dirais moutonnier. C'est-à-dire que s'il y a une information dont un média parle et qui, en gros, devient viral, comme tu dis, tous les autres journalistes, ils vont se jeter sur cette même information-là. Mais pourquoi ? C'est parce que, encore une fois, voilà, on vit dans un monde où il y a des logiques financières. Si ton média, il n'est pas lu, il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. Donc, il faut qu'il soit lu. Mais après, je ne suis pas forcément non plus d'accord avec cette idée de buzz, parce que, voilà... Le buzz, non, je crois pas. Quand on parle d'un, je sais pas moi, d'un titre de presse de qualité, ce qui va d'abord nous intéresser à nous, les journalistes, c'est l'information qui va être délivrée, qu'est-ce que ça va dire de la société selon le sujet, etc. Après, pourquoi on parle de buzz ? C'est parce qu'aujourd'hui, tout est polémique, en fait. N'importe quel sujet, ça devient une polémique. La viralité, comme tu dis, des réseaux sociaux, le moindre truc, paf, paf, tout le monde en parle, c'est un truc de ouf, je sais pas quoi, gnagnagna. Donc, c'est ça, en fait. C'est pas l'information qui, à la base, on se dit pas, je vais faire cette information-là, elle va buzzer, en fait. C'est que derrière, il y a des logiques qui prennent, qui sont liées un peu à l'instantanéité où tout le monde va vite. Et parfois aussi, pourquoi ça buzz ? Les gens lisent le titre, ils lisent pas l'article. C'est-à-dire qu'ils vont lire le titre, oh là là, truc de fou, et ils ont dit ça, etc. Maintenant, tu vas dire, mais il y a quoi dans cet article ? La personne, elle sait pas. Donc, ça a buzzé pour des mauvaises raisons. Ça a buzzé juste parce qu'on a lu, ça va trop vite, on est avec son téléphone, tac, tac. Et puis on passe. Je suis sûre que si les gens ne s'arrêtaient pas au titre et lisaient vraiment l'article, il n'y aurait pas toute cette espèce de machine qui s'emballerait souvent pour des sujets.
Oui, souvent, notamment depuis Twitter, on va plus s'attacher aux commentaires qu'au fond du sujet, c'est-à-dire à l'information en elle-même et à la source de l'information, comme dit Vanessa. Donc c'est important que si vous voulez bien vous informer, de prendre le temps de... Voilà, on a dit ça, mais d'où vient cette information ? On s'était amusé à le faire là, quand je vous avais fait... Deviner Info ou un Fox ou Info ou un Tox, la plupart des groupes avaient su retrouver, avoir la bonne réponse, sauf que ça prend le temps, vérifier les sources, hein, vérifier aussi les images, remonter l'historique d'une image, voir quand est-ce qu'elle a été publiée la première fois. Donc vous pouvez être à votre niveau des petits journalistes qui vérifient votre information.
Et vous jouez beaucoup sur le titre ?
Comment ça ?
C'est le titre.
Mm-hmm. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que le titre soit aguicheur ?
On essaye, oui, de faire en sorte que notre article soit lu. Donc, pour qu'il soit lu, il faut que le titre, il plaise. Et après, le titre, il est là aussi pour... comment dire ? Oui, il est là un peu pour appâter le lecteur. Ouais, on peut le dire franchement.
Avez-vous déjà relayé par erreur des fake news ?
Je pense pas. Non. Je pense pas avoir déjà relayé, surtout parce que je fais beaucoup moins d'actu, ce qu'on appelle de l'actu chaude. Il y a l'actu chaude et l'actu froide. Donc l'actu chaude, c'est, je sais pas moi, il y a un incendie quelque part, on va tout de suite sur le terrain, quoi. Et l'actu plus froide, t'as plus le temps, en fait, de vérifier les informations de ton sujet. Donc non, j'ai pas relayé de fake news.
D'accord. Vous êtes-vous déjà fait avoir par des fausses informations ? C'est-à-dire vous personnellement, pas
oui.
Dans le cadre
ah, oui.
Du métier.
Ah oui. Ça m'est déjà arrivé, ouais, de voir des choses passer et de me précipiter dessus. Et ensuite, après, quand je lisais l'article, je me disais, mais il est fait bizarrement cet article. Il n'y a pas les... On va dire, un article, ça répond à certains codes quand même. Il n'y a pas les codes de base qu'il devrait avoir dans un article professionnel, n'y sont pas. Qu'on m'envoie des articles, enfin, qu'on m'envoie un sujet, des potes, ils m'envoient un truc. Ouais, t'as vu, il s'est passé ça, je regarde, je fais, mais... Et au début, ouais, je me dis, oh, c'est un truc de fou. Et après, quand je lis l'article, non, en fait, je me rends compte que c'est n'importe quoi.
D'accord. Et vous parlez de code, mais c'est-à-dire...
Eh bien, de code, un article, normalement, il doit... déjà, comme disait Philippe, il y a la question des 5 W. Donc, ça se passe où ? Ça se passe quand ? Ça se passe comment ? Pourquoi ? Qui ? Dès le début de l'article, tu dois avoir ça. Il faut aussi citer... Tu cites pas tes sources, mais tu... On doit comprendre, quand on lit l'article, d'où vient l'information. Si on a l'impression que l'information, elle vient d'un endroit un peu nébuleux, on se dit oui, on nous dit ça, mais à la fin de l'article, t'as toujours pas compris comment il a su ce truc-là. Pose-toi des questions, quoi.
Ça veut dire que vous, en tant que journaliste, vous aurez plus de facilité à trouver un faux article ?
Par rapport à qui ? Par
rapport vous, à vous, en tant que
oui.
Vous. Avec votre expérience de journaliste, quand vous lisez un article, vous aurez plus de facilité à trouver s'il est vrai ou faux ?
Ben, c'est pas tel temps, quand je lis un article, trouver s'il est vrai ou faux, parce que j'ai des sources d'infos bien précises. pour voilà, quand je fais ma revue de presse, je sais sur quel site aller et je sais que voilà, c'est des sites sérieux, que ça va pas être bidonné, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand t'es journaliste, tu vois, c'est comme une danseuse qui va voir un spectacle. Toi, tu regardes la danseuse danser, mais la danseuse, quand elle va voir le spectacle, elle voit tout le travail en fait qu'il y a derrière. Donc, c'est pas tant que tu vois ce qui est vrai ou faux, c'est que tu vois toute la mécanique qui a été mise en place pour écrire l'article, pourquoi on a choisi plutôt telle citation ou tel machin. C'est surtout ça que tu vois, je pense. Mais ça, c'est valable pour tous les métiers. Un cordonnier, il voit une chaussure, s'il y a un clou à tel endroit, il va savoir pourquoi. Moi, je saurais pas, tu vois.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'information doit être payante. Mais pourtant, sur la dépêche, elle n'est pas payante sur le téléphone.
Si, elle est pas payante pour certains articles, mais tu vois qu'à un moment donné, tu as une limite. Bien sûr qu'on peut laisser quelques articles en accès libre. La plupart des médias, ils font ça, ils laissent quelques articles en accès libre. Mais tout n'est pas dans cette configuration-là. Et comme disait Philippe tout à l'heure, voilà, si tu veux lire un article, il y a un journaliste qui a travaillé derrière, parfois plusieurs, donc... C'est quand même un gage de qualité. Et il y a des journaux, par exemple, voilà, Mediapart, tout est payant. Dernièrement, il y a eu une grève, donc ils ont mis tout le site en accès libre. Mais sinon, si tu as envie de lire leurs articles, faut t'abonner, quoi, faut payer.
Et comment vérifier une information, vous, personnellement ?
Dans l'exercice de mon métier, oui. Bah, la personne que tu vas interroger, elle va te dire quelque chose. Ensuite, alors souvent, là où il faut être scrupuleux, c'est quand elle va te donner des chiffres. Faut vérifier que les chiffres sont bons, faut recouper une information. Comment tu vérifies une information ? Tu la recoupes en fait. Ça veut dire que si une personne te l'a dit, voilà, ça engage sa parole, mais derrière, il faut voir le camp adverse, ce que la personne va te dire. Par exemple, comment je vérifie une information ? Bah, une fois, je travaillais sur c'est un sujet qui m'a tenu un peu à cœur, sur une bataille qu'il y a eu pas très loin de Toulouse, à Plaisance-du-Touche, un énième immense centre commercial que la commune voulait faire. Elle s'était mise en cheville avec... un bailleur qui fait des centres commerciaux, un gros bailleur qui s'appelle Unibail Rodamco, quelque chose de vraiment très très gros. J'ai rencontré le maire qui m'a dit « oui, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça ». Ok, le maire il m'a dit ça, mais derrière, pour vérifier l'information, j'appelle Unibail Rodamco, j'appelle aussi les opposants au maire. Et là, quand j'ai appelé toutes ces personnes-là, maintenant je peux savoir si cette information, elle est vraie ou pas vraie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dans mon article. Hein. C'est les propos du maire, ça l'engage. Mais je ne peux pas laisser passer une information comme ça en disant « Oh, il a dit ça, donc forcément c'est vrai parce que ça sort de sa bouche. » quoi. Non, ta base, c'est quand même, il faut que tu vérifies l'information d'où elle sort. Quoi. S'il te dit « Oui, mais ça allait créer 6000 emplois. » Ouais, d'accord, ça allait créer 6000 emplois, tu dis ça. Mais maintenant, moi, c'est bizarre. Mais j'appelle les syndicats, ils me disent autre chose. Et puis je vérifie mes chiffres et puis on me dit que c'est pas ça en fait. Tu vois, pour vérifier une information, il faut que tu la recoupes avec plusieurs personnes.
Et c'est quoi une information fiable ?
C'est une information qui a été sourcée, vérifiée, recoupée. Il faut que ton information, on puisse la recouper. La base vraiment de notre métier, c'est ça, c'est de recouper l'information.
Des conseils pour nous les jeunes qui ont tendance à voir plusieurs types d'informations sur les réseaux sociaux, sur internet, pour savoir comment on peut débusquer le vrai du faux.
Ouais, ça c'est hyper important, surtout que, après je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que vous informez beaucoup par les réseaux sociaux en fait, que vous lisez pas trop la presse, etc. Mais sur les réseaux sociaux, vous allez avoir les avis de plein de personnes, mais la première chose qu'il faut vous demander c'est d'où vient cette information. Est-ce que ça vient d'un journal professionnel ? Ou est-ce que ça vient, je ne sais pas moi, d'un groupe militant ? Donc c'est une des premières choses, c'est de savoir d'où vient l'information. Autre chose pour vérifier les infos, regardez les dates aussi. Parce que parfois, vous allez avoir une information qui va passer, tout le monde est là, s'excite sur le truc, et puis après tu regardes la date, c'était il y a 4 ans. C'est hyper important de regarder ça. D'où vient l'information ? Donc est-ce que c'est un journaliste professionnel qui l'a fait ? Et pour le savoir, bah, il faut regarder s'il te dit... voilà, tel journaliste de tel journal, bah, tu tapes après vite fait pour savoir bah, ce journal c'est quoi. Tiens, il y a le journaliste de, je sais pas moi, Libé qui a dit ça, bah, Libération, je connais pas, tiens, c'est quoi Libération ? Là, il y a le journaliste de réinformation.com. Là, tu regardes c'est quoi réinformation.com et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas un journaliste.
C'est quoi un journaliste militant ?
Ah, c'est quoi un journaliste militant? Mais ça, c'est une très, très bonne question. En fait, pour moi, un journaliste militant, c'est un journaliste qui ne se cache pas derrière son petit doigt. Je vais vous donner une anecdote qu'il y a eu il y a quelques semaines. Il y a un journaliste qui s'appelle Taha Bouhafs, qui travaille pour une émission qui s'appelle « Là-bas, si j'y suis », qui a juste fait son boulot. En fait, il était dans un théâtre à Paris. Et il se trouve que dans cette salle de théâtre, donc... il y avait le président de la République qui était là et il a tweeté « Ah tiens, il y a Emmanuel Macron qui est trois rangs devant moi, il y a quelque chose qui se prépare parce qu'il y avait des militants qui l'attendaient dehors, ça va chauffer. » Et là, tu as plein de journalistes, plein de confrères à ce monsieur qui ont poussé des cris d'orfraie en disant « Oui, ce mec est un journaliste militant. » Mais lui, il ne se cache pas de son militantisme. Ça veut dire qu'on sait qu'il milite, on sait qu'il est un journaliste militant, mais les journalistes qui ont dit ça, eux aussi, ils sont militants, en fait, sauf qu'eux, ils ne le disent pas. C'est-à-dire que les journalistes qui l'accusaient d'être des militants, eux, ils font comme si, en fait, il n'y avait qu'une vérité, qu'ils étaient neutres, que leur opinion, ce n'était pas une opinion qui était pensée et fabriquée par plusieurs facteurs, leur milieu social, où ils travaillent, qu'ils rencontrent, qu'ils fréquentent, comme si, eux, voilà, ils nageaient là, au-dessus de la masse, et que les informations, elles arrivaient comme ça, et puis qu'ils les ressortaient comme ça. En vérité, j'ai envie de dire... que beaucoup de journalistes sont militants, mais la différence, c'est que certains le disent vraiment, et puis tu as d'autres journalistes qui sont militants, et ils te disent qu'ils ne le sont pas. Voilà, c'est ça. C'est que, enfin, pour moi, peut-être que je ne suis pas assez claire, je vais essayer de reformuler un petit peu, mais en gros, des journalistes militants, oui, c'est vrai, il y a des journalistes qui sont militants, qui sont engagés. Moi, par exemple, je ne me considère pas comme une journaliste militante, mais je me considère très clairement comme une journaliste engagée sur tout un tas de questions. Voilà, c'est clair. Je ne sais pas, reporter, c'est un journal qui travaille sur l'environnement, mais le mec qui a fondé ce truc, c'est un ancien journaliste du Monde. Il était responsable des pages environnement du Monde. Et puis un jour, il est parti du Monde parce qu'il travaillait sur Notre-Dame-des-Landes. Et on lui a dit, ben, tu peux pas, cette information, tu peux pas la donner, alors que c'est un journaliste chevronné, ça fait 40 ans, je sais pas, qu'il ait fait ce métier, tu peux pas la donner. Donc il a dit, ok, moi je me barre, je vais faire mon truc. Lui, c'est un journaliste qui est engagé, mais il le dit qu'il est engagé. À côté de ça, tu as d'autres journalistes qui sont aussi engagés, mais eux, par contre, ils le disent pas. C'est la différence.
Et quel est l'intérêt de pas le dire?
Franchement, je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus, je sais pas, parce que si tu t'intéresses un peu à l'actualité, que tu t'intéresses un peu à la politique, tu vois quand même assez rapidement, en fait, qui est militant et qui ne l'est pas, et surtout pour quelle, on va dire, chapelle il milite, quoi. Hein. Tu vois, par exemple, il y avait un journaliste sur France Inter qui s'appelle Bernard Guetta, qui est un journaliste économique. Alors, pendant des années, donc, il était sur France Inter, et tout le monde disait, mais ce mec est quand même un peu militant. Et lui, non, mais moi, je suis pas militant, je suis un journaliste économique, nanana. Et l'année dernière, il s'est présenté aux législatives pour un parti, pour La République En Marche. Donc voilà, le gars est militant quand même. Il se présente pas sans étiquette, il se présente pour un parti, la majorité présidentielle, qui a ses idées, hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas le débat. Mais pendant des années, beaucoup d'auditeurs de France Inter ont fait le reproche à cette radio en leur expliquant que quand même, Bernard Guetta, c'est un journaliste économique militant. Et lui, il était là, non, je suis pas militant. L'année d'après, il se présente aux législatives sous l'étiquette La République En Marche. Si ça, c'est pas être militant, faut m'expliquer ce que c'est, quoi.
Donc vous pensez que ceux qui ne veulent pas dire qu'ils sont militants, c'est pour pas être catégorisés dans une certaine case?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, certainement.
Et pour revenir juste sur la vérification de l'information, ce qui est nouveau quand même, qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez aussi questionner les journalistes. C'est ça qui est nouveau. Les journalistes, ils sont un peu sous pression depuis quelques années parce qu'en fait, n'importe quel citoyen ou citoyenne en France peut publier sur Internet les réseaux sociaux. Donc le journaliste, voilà, il s'interroge sur son métier, ils font partie de la société, ils ont conscience qu'ils ne sont pas toujours bien compris, qu'ils n'ont pas forcément toujours une bonne image, mais justement, c'est une raison de plus pour qu'ils fassent un travail encore plus sérieux, méticuleux. Et bien souvent, vous avez donc, leurs articles sont signés, vous pouvez les questionner, vous pouvez envoyer des questions sur le sujet, sur leur sujet, sur leurs sources. En général, ils essaient de répondre quand ils peuvent. Et il y a de plus en plus de rédactions, effectivement, où les journalistes se spécialisent, que ce soit la rédaction du Monde ou la rédaction de Libération, ou d'autres grands médias d'information. Ils ont ce qu'on appelle des rédactions qui sont spécialisées dans la vérification de l'information. Je pense à Check News, ça c'est dans à Libération. Vous-même, vous pouvez aller, je fais un peu la pub parce que j'ai travaillé avec Vincent Caucase, qui est un journaliste journaliste qui bosse à Libé et à Check News. C'est-à-dire que n'importe lesquels d'entre vous pouvez, s'ils entendent voilà, une info, une rumeur vérifiée, aller sur Check News, poser votre question. Si, bien sûr, il y a beaucoup de demandes, les journalistes vont enquêter. Parfois, ils auront la réponse parce que d'autres personnes leur auront posé la question. Donc, il y a quand même des outils, déjà, de vérification de l'info par les journalistes eux-mêmes. Mmh. Voilà. Et après, c'est effectivement à vous, si vous voulez être bien informé, c'est aussi vous informer à différentes sources journalistiques. Et voilà, ça demande un effort, effectivement. Ça demande un effort d'être bien informé.
Et ce qui est sympa aussi à faire, c'est, pour une même information, multiplier les sources. Vous pouvez... Je sais pas, moi, pour une information classique, regarder comment c'est traité chez Libération, puis regarder après comment ça va être traité au Figaro, regarder comment ça va être traité aux Échos, parce que la même information, le même sujet peut être traité différemment, et en général, en plus, il est traité différemment. Ça, c'est bien pour se faire son propre point de vue, de ne pas se conforter à lire seulement des journaux ou à lire seulement des journalistes qui sont d'accord avec ce qu'on pense, en fait. Et aussi de se confronter à d'autres points de vue, ça enrichit, en fait. Parce que quand on est en vase clos et qu'on n'est qu'avec des gens qui pensent pareil que nous, c'est un peu stérile, quoi. Hein. C'est pas ça qui fait avancer le débat, quoi. Mais si tu lis voilà, des journaux où tu n'es pas d'accord, forcément, avec les points de vue qu'ils défendent, ça peut être intéressant. Et parfois, en plus, on a des très bonnes surprises.
Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés sur certains points. Nous vous souhaitons une bonne journée. C'était Radio Info.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Ah,
c'est un peu chiant, là. Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour Médias Communs Occitanie dans le cadre du projet DRAC d'éducation aux médias porté par la Ligue de l'Enseignement 31. Nous remercions toute l'équipe du lycée du Mirail, les enseignantes et les élèves sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Et bien sûr, merci à Vanessa et à Philippe pour leur disponibilité. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur ondescourtes.fr, la web radio du libre.